RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Dimanche prochain, nous serons le 8 mars. Ce sera la journée internationale des droits de la femme. Et si beaucoup de progrès ont été réalisés en France en matière d'égalité hommes-femmes, notamment sur le plan professionnel, eh bien, la route est encore longue pour qu'une femme soit considérée l'égale de l'homme sur le plan des salaires et de la considération et de l'autorité, des perspectives de carrière. Aujourd'hui, à peine plus de 30% des femmes sont chefs d'entreprise. Alors, quel est leur parcours, leurs difficultés, celles qu'elle rencontre jour après jour? Eh bien, elle témoigne. Clémence Denavy, qui est déjà parmi nous, a choisi de nous parler de deux de ces femmes, chefs d'entreprise. Clémence, que nous retrouvons pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Elle a le pas rapide, la poignée de main ferme mais douce. Le jour où je la rencontre, Sally Benasser porte une jupe en cuir noir et un pull jaune qui souligne son teint hâlé. Elle assume sa féminité. Elle est belle, menue, élégante, ses yeux sont soulignés de noir. Ce qui frappe d'emblée, c'est le sourire qu'elle a dans le regard et sa détermination. Dans la vie, Sally Benasser sait ce qu'elle veut, cela ne fait aucun doute. Vous venez d'où, Sally Benasser ?
De la petite Kabylie.
C'est-à-dire ?
Du fin fond des montagnes. Je suis arrivée en France, ben, je parlais pas français, je savais pas lire, je savais pas écrire, j'avais 7 ans et demi et puis j'ai appris.
Et aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise.
Ben, j'aurais pas cru arriver à faire tout ça. J'ai eu la chance d'avoir une maîtresse de CP qui me prenait pendant les récréations et en dehors des heures pour m'apprendre à lire et écrire. Et puis en même temps, bon, j'apprenais vite et puis vraiment elle m'a dit que je mettais de la bonne volonté et ça l'a motivée à continuer parce que ben, c'est justement cet acharnement que je mettais à apprendre, ben, elle s'est dit elle vaut la peine, il faut que je l'aide parce qu'elle vaut la peine.
Troisième d'une fratrie de 8, Sally Benasser grandit à Vitry, dans la banlieue sud de Paris. C'est une cité, mais elle préfère parler de quartier populaire. Son bac secrétariat en poche et après 2 années en fac de psycho pour vivre, Sally décroche un travail à mi-temps chez un fabricant de stores. Elle y restera 8 ans.
Quand j'ai voulu créer mon entreprise, je suis partie voir la chambre de commerce et la chambre des métiers qui m'ont dit « Mais pourquoi vous voulez quitter votre travail ?» Alors j'ai acheté des livres et j'ai appris l'entrepreneuriat dans les livres. Et tous les livres que je lisais disaient une chose, créer dans un domaine que vous maîtrisez, vous ne pouvez pas apprendre la création et la gestion d'une entreprise et un nouveau produit. Et donc j'ai dit, ben, je connais les stores, je sais où les acheter, je sais où les vendre, comment les vendre. Donc, je vais acheter et vendre des stores. Et au début, je pensais être agent commercial, je ne pensais pas avoir une boutique ou des choses comme ça. Et puis ainsi venant, le chemin s'est fait tout seul.
Et ça, c'est un exemple de store que vous vendez ?
Exact.
D'accord.
Tout à fait.
Ça aussi,
ah oui, c'est un store à l'italienne. Ça, c'est des panneaux coulissants à la japonaise.
Elle est bien modeste, Sally Benasser. Ce chemin-là coule rarement de source. Seuls 30% des entreprises en France sont créées par des femmes. En général, elles débutent avec moins de 8000 euros, de l'argent tout droit venu de leur propre compte en banque. C'est un chemin difficile, éprouvant, surtout quand on est une jeune femme issue de l'immigration.
C'est vrai qu'au démarrage, j'étais gênée, immigrée, femme, si et ça. Et puis moi, je m'appelle Salia Benasser, mon prénom c'est Salia. Et tout le monde m'appelle Sally, on a coupé mon prénom en deux depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Ça m'est resté. Ça m'a servi dans le business parce que j'ai un prénom qui n'a pas forcément une consonance maghrébine. Ça aurait certainement eu un effet si j'étais plus marquée maghrébine. Ça m'aurait certainement porté préjudice. Je veux pas penser à ça. Il y a des combats, c'est une dépense d'énergie inutile. La dernière fois, je parlais avec mes salariés. Je leur expliquais, quand j'ai démarré avec mon premier magasin, j'avais plus d'argent. Toutes mes économies étaient parties en apport pour le magasin. Je travaillais le soir au restaurant pour payer mon loyer. La journée, je montais ma boîte et je gagnais pas suffisamment pour me rémunérer, parce que tout ce que je gagnais, ben, je le réinvestissais dans les nouvelles collections, les nouvelles maquettes, dans la publicité. J'avais plus rien, même pas pour acheter un bureau ni un ordinateur. J'avais mis deux tréteaux avec une planche et une nappe par-dessus la planche pour pas que les gens s'aperçoivent que c'était pas un bureau. Les clients rentraient, ils trouvaient ça super, c'était comme à la maison. S'ils savaient que j'avais pas l'argent pour acheter un bureau. Je rigole aujourd'hui, ça me fait rire, mais sur le coup, ça m'émeut de repenser à ça parce que c'était vraiment une période très, très, très difficile. J'étais perdue, je ne savais pas du tout où j'allais. Mais ce que je savais, c'est que j'essayais. Et puis je verrais, ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, bah tant pis, je ferai autre chose. Mais quelle énergie.
Comment vous avez sauté le pas, justement? Enfin, vous vous souvenez de ce moment-là où vous vous êtes dit, je vais créer mon entreprise?
Mais il faut être complètement fou. Vraiment, il faut être fou. Hein. Je crois que pour être chef d'entreprise, et aujourd'hui, il faut être encore plus fou. parce que c'est dur, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est sauter le pas, c'est dégager cette peur qui nous empêche d'avancer. Et avancer quand même.
Quand vous vous regardez aujourd'hui, vous dites « je suis femme, chef d'entreprise ». Vous le dites parfois, ça ?
Non, je ne me dis pas du tout ça. En revanche, ce que je me dis, c'est que je travaille dans le milieu du bâtiment. Et que parfois, je réussis des chantiers assez compliqués, assez difficiles, etc. Là, par contre, je me dis « ah la vache, j'ai réussi à faire ça ! Oh, oh la vache !»
En 2002, le courage et la ténacité de Sali Benacer ont été distingués Talent des Cités, un prix dont le seul nom dit tout des entreprises récompensées. Art & Blind, la société de BTP qu'elle dirige, compte maintenant 5 salariés, 2 boutiques et bientôt un atelier de fabrication de cloisons sur mesure.
Ce dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est que je nourris des pères et des mères de famille qui nourrissent leurs enfants et que leurs enfants font leurs études. Moi, ma secrétaire, elle a embauché chez moi, elle venait de se marier. Aujourd'hui, elle est maman et elle a acheté sa maison. Ben moi, c'est ça ma fierté. Mon responsable technique, il est rentré chez moi. Aujourd'hui, son fils, il est en deuxième année de médecine. Il a un autre qui fait une école de communication. Ses filles, elles vont à l'école. Moi, c'est ça ma fierté. Je pense qu'on ne peut pas toujours chanter les louanges de quoi que ce soit. Moi, je suis honorée et flattée. Je vous remercie de faire cette communication sur moi qui est positive. Ça m'honore. En revanche, je pense que l'exemplarité est le meilleur moyen de véhiculer les messages les plus positifs. Et avoir des gens comme j'ai dans mon équipe qui avancent de cette façon-là, c'est de ça dont je suis le plus fière.
Dunkerque, dans le nord de la France, à l'opposé de l'Espagne et des montagnes des Asturies dont est originaire Eva Escandon.
Bonjour, madame Escandon.
Eva n'a pas créé la société maritime de chaudronnerie et de soudure qu'elle dirige. C'est son père, soudeur de formation, entrepreneur dans l'âme, qui l'a fondée en 1976, avant de se résigner à céder les rênes à sa fille.
En 1993, il y avait une crise de la sidérurgie assez importante ici. Et c'est vrai que l'entreprise avait perdu 50% de son chiffre d'affaires. C'était pas facile et donc je suis venue provisoirement
donner
un coup de main. Voilà.
Quand vous êtes arrivée, on vous a regardé comment ?
Quand je suis arrivée, on m'a regardée comme la fille du patron, comme une femme qui ne connaissait pas le métier. Mais j'ai quand même contribué à redresser l'entreprise très rapidement. Donc ça a été quand même ma chance. Moi, je suis juriste de formation. Je suis arrivée avec mon savoir-faire administratif, gestionnaire. J'y ai amené la qualité, l'organisation. Et donc automatiquement, la force, en fait, du professionnalisme de mon père et du savoir-faire de mon père. Donc ça a toujours été la force de notre entreprise. Et après, quand on y rajoute tout ce qu'il y a à côté, je pense qu'à un moment donné, ça crée une richesse. Et puis après, quand il est parti, les gens se sont quand même posés la question. Ils se sont dit, est-ce qu'elle va assurer toute seule ?
Est-ce qu'il y a un moment où il a fallu qu'il vous adoube ?
Non, je me suis toujours battue. C'est moi qui me suis imposée. Complètement, tout le temps. Non, ce qui est amusant, parce que je l'ai su après, il a pris mes deux principaux collaborateurs de l'époque, puis il leur a dit, faites attention à ma fille. C'est quand même... Enfin, moi, ça me sidère, voilà.
La fille du patron devenue patron dans la métallurgie est une très belle femme, brune, affirmée. Elle a le regard doux, souligné de bleu électrique, le sourire et le calme de ceux qui savent où ils en sont. Passionnée par l'industrie, son corps de métier, elle se bat pour que les femmes y aient leur juste place et contre les malentendus que l'on pense naïvement être d'un autre temps.
Quand on n'est pas connu, quand on est une femme et quand on est une jeune femme en plus, dans un métier comme ça, si vous êtes entourée de messieurs, c'est pas possible que vous soyez la chef d'entreprise. Donc vous êtes la secrétaire du monsieur avec qui vous êtes. Ça, c'est évident. Vous êtes l'assistante. Et c'est assez flagrant. Et la première fois que je suis arrivée à la maison des entreprises, à Lille, bon, là où il y a le MEDEF, c'est pas si vieux que ça quand même, parce que c'était pour la campagne de Laurence Parisot au MEDEF. J'étais commencé à être un peu connue sur mon territoire, mais sur le territoire lillois, finalement, on ne me connaissait pas trop encore. Le président du MM, qui ne pouvait pas y aller, m'avait donné l'invitation. Puis bon, moi, je soutenais Laurence Parisot, bien entendu, parce que c'était quand même un symbole à la tête du patronat. Donc je suis arrivée là-bas, on m'a complètement ignorée. Alors quand les hommes arrivent dans notre métier, dans l'industrie ou dans le monde patronal, les hommes ont une stature que nous n'avons pas. Non, c'est pas logique, mais c'est comme ça.
Les stéréotypes ont la peau dure. L'homme a l'apanage de la force, une autorité presque naturelle. La femme, elle...
On part du principe qu'à partir du moment où vous dirigez et vous avez un minimum de poigne, parce que sinon, je ne vois pas comment on peut diriger quoi que ce soit, si on n'a pas un minimum d'autorité, on considère qu'on n'est pas une femme, qu'on est un homme. On ne nous attend pas dans ce mode de fonctionnement. Et à partir du moment où on fait preuve de l'autorité qui est évidente pour notre métier, on va nous qualifier d'autoritaire, parfois d'hystérique. Il y en a un qui m'a fait comme ça. Mais c'est pas la peine de t'énerver, mais d'une façon, tout simplement parce que je m'étais exprimée avec conviction et véhémence. Parce que ça les arrange bien, en fait. Un homme, on va trouver qu'il a de l'autorité, qu'il a de la prestance. Pour lui, c'est normal.
D'année en année, cependant, les quelques femmes qui percent le plafond de verre, siègent, décident dans les conseils d'administration, et elles ne sont pas légion, 4% seulement dans les entreprises cotées en bourse. Ces femmes-là dirigent autrement et leurs entreprises s'en portent plutôt très bien.
Je pense qu'il y a une mutation. Parce qu'avant, on se disait, un bon chef d'entreprise ne doit pas montrer ses émotions, doit rester calme. C'est vrai, il vaut mieux rester calme que s'énerver. Il n'empêche que de temps en temps, une petite colère maîtrisée fait pas de mal. Montrer ses sentiments, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Si je me trompe, je le dis, même si j'aime pas me tromper. Mais... Et si quelque chose me pose un problème, je le dis. Si quelque chose me fait mal, je trouve qu'il faut le dire. C'est une force, au contraire. Je pense qu'il y a quelques années, ça n'apparaissait pas comme une force. Je pense que c'est nous, c'est nos modes de fonctionnement, nous, féminins, qui apportons ça. On parle du management féminin. C'est pas qu'il est féminin parce que ce sont les femmes, c'est qu'il est féminin par le mode de fonctionnement, qui est un mode de fonctionnement plus dans l'affectif, plus dans l'émotion, dans le bien-être des gens qui sont autour de l'entreprise. Après, c'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire est-ce que c'est judicieux d'avoir ce mode de management parce que c'est difficile. Et c'est vrai que quand je me retrouvais dans les réunions du monde patronal plutôt masculin, nous a regardé avec des grands yeux, de dire mais elles sont folles ces femmes, qu'est-ce qu'elles sont, on est en pleine crise et puis elles nous sortent le bonheur national brut. Oui, on est différentes, mais c'est ce qui fait que c'est une force et c'est une richesse. Quand on a des mandats et quand on est dans les institutions, on va voir les choses différemment et on va apporter quelque chose. Les statistiques ont démontré depuis 2008 que les entreprises dirigées par les femmes ou les entreprises où il y avait plus de femmes aux manettes résistaient mieux à la crise. On résiste, je résiste, puisque c'est ce que je dis, je suis encore là.
Elle parle d'expérience, Eva Escandon. Avec ses différents mandats dans l'industrie, le patronat, en tant que présidente de l'association Femmes Chefs d'Entreprise, elle est aux premières loges pour témoigner de l'évolution de la place des femmes et elle regrette de les voir si peu solidaires.
Je reproche à certaines femmes d'être trop bien seules. Souvent, nous disons, nous les femmes qui travaillons sur ces combats-là, que nous ne sommes pas forcément toujours aidées par notre camp. Toutes ces femmes qui effectivement disent que le féminisme c'est arriéré, c'est nous devons d'être toutes féministes. C'est une évidence. Les nouvelles générations n'ont pas conscience de tout ce que les anciennes générations ont dû endurer et tout ce qu'elles ont fait pour faire en sorte que nous en soyons là où nous sommes aujourd'hui. De la même façon, vous savez, c'est comme le recrutement. Moi, j'ai beaucoup défendu le recrutement, justement, dans les métiers masculins. C'est de la discrimination positive. Et alors, les DRH ne supportent pas ça. C'est non, nous, on recrute des compétences. Bah oui, on recrute des compétences, c'est une évidence. Mais s'il y a un choix à faire à un moment donné pour rééquilibrer les forces, pour faire en sorte que l'équipe soit plus mixte et donc soit plus équilibrée, soit plus créative et qu'il faut donner sa chance plutôt à une femme, pourquoi ne le ferions-nous pas?
70 ans après avoir obtenu le droit de vote, 50 ans après avoir obtenu le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, 40 ans après le vote de l'égalité des salaires, 30 ans après celui de l'égalité professionnelle, les femmes doivent encore prouver qu'elles sont légitimes.
On est capable, la preuve. Je suis l'exemple vivant. J'ai créé une société en partant de zéro, sans argent, sans rien. Et je suis toujours là. Je me développe, j'évolue. Je dirige des hommes aujourd'hui. Je suis respectée dans mon corps de métier. Mais je ne me pose pas la question si c'est normal ou pas. Je crois pas que c'est une question qu'il faut se poser. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'on doit toujours prouver qu'on peut faire mieux que les autres. C'est comme ça, on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec.
Finalement, aujourd'hui, nous nous imposons par notre compétence et notre force parce que nous sommes obligés d'être compétentes. Parce que sinon, nous n'avons pas les places. Une femme, on l'attend tout de suite au tournant. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre de Françoise Giraud qui disait « Quand il y aura autant de femmes incompétentes à des places importantes, c'est là que nous verrons effectivement que les choses ont vraiment évolué. »
C'est encore un combat à mener complètement, à vous entendre.
Oui, Oui, et 70 ans après, parce que notre association a été créée par une maître des forges. Et donc une femme aussi qui s'est imposée dans son monde professionnel, très jeune, au moment de la Première Guerre mondiale, et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, elle a créé l'association des femmes chefs d'entreprise, justement pour faire en sorte que nous soyons plus présentes dans le monde économique. 70 ans après, on est encore en train de défendre les mêmes sujets. Je ne sais pas ce qu'elle en penserait. Les choses ont évolué, certes, c'est très clair. Mais c'est assez impressionnant de voir quand même à quel point on doit encore se battre.
Portrait de femme chef d'entreprise, un grand reportage de Clémence Denavy, réalisation Marc Minatel.
Clémence Denavy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une femme.
Exactement.
Et vous êtes en direct. Les deux chefs d'entreprise que vous avez rencontrés travaillent dans des secteurs majoritairement masculins. Alors pourquoi ce choix ?
Eh bien Laurent, par curiosité d'abord. Évidemment, les femmes dans l'industrie et le bâtiment ne sont pas nombreuses et je me demandais comment elles étaient arrivées à s'imposer dans ce monde assez traditionnellement masculin, comment elles s'étaient fait leur place. Je me doutais évidemment que leur parcours n'avait rien d'évident, mais j'ai réalisé en leur parlant à quel point la place des femmes et des femmes chefs d'entreprise n'était toujours pas acquise. Il a d'ailleurs fallu voter encore une loi en juillet dernier pour réaffirmer l'égalité réelle des hommes et des femmes en 2014, c'est assez sidérant. En termes de représentation aussi, cela varie évidemment beaucoup en fonction du territoire, mais dans certaines chambres de commerce et d'industrie, il n'y a que 3% de femmes, ce qui est dérisoire, on est bien loin de la parité. Ce choix, c'était aussi un choix, Laurent, je vous l'avoue, un choix, j'étais en plein dans le cliché. Ouais. J'aurais pu aussi rencontrer des femmes chefs d'entreprise dans le textile ou bien dans la chaussure, mais je les ai mises de côté, je me suis dit que ce devait être sans doute plus facile pour elles, puisqu'elles étaient dans des secteurs plus féminin, et vous vous doutez bien sûr que ce n'est absolument pas le cas, et je suis une femme pour l'avoir dit, un homme aurait pu le dire.
J'en suis un. Alors les femmes ont toujours autant de difficultés, je parle sous votre contrôle, pour accéder aux postes clés.
Eva Escandon le dit d'ailleurs dans le reportage, le plafond de verre existe toujours, il y a toujours aussi peu de femmes au sommet de la hiérarchie. Seuls 15% des PME françaises, les petites et moyennes entreprises, sont dirigées par des femmes aujourd'hui. Les femmes qui veulent devenir cadres dirigeants se retrouvent aussi bien souvent cantonnées à certains postes de direction, dans certains secteurs, les ressources humaines, les relations publiques, la gestion, la communication, l'administratif par exemple, et quand elles siègent dans les conseils d'administration, bien souvent, elles ne sont pas à des postes de décision, de choix stratégiques et économiques. Il y a des progrès, bien sûr. Il y a aujourd'hui plus de femmes au poste clé qu'il n'y en avait il y a 20 ans, mais le chemin est encore long avant d'arriver à une égalité réelle. Et puis, subsiste aussi la question des salaires, à travail et compétences égales, à profil et fonctions identiques dans le privé. Les femmes sont moins rémunérées que les hommes, 18% en moyenne. L'entrepreneuriat pourrait être la solution, pourrait permettre en tout cas de renverser peut-être cette tendance, créer son entreprise, c'est s'assurer son emploi, son indépendance. Mais les femmes sont encore peu nombreuses à oser sauter le pas, à se dire qu'elles en sont capables. Aujourd'hui, 3 entreprises sur 10 sont créées par des femmes. L'objectif national fixé par le gouvernement français, c'est que d'ici à 2017, 40% des entreprises le soient.
Alors, Eva Escandon et Zali Benacer, dont l'une et l'autre, sont finalement une source d'inspiration.
Oui, et d'encouragement. Zali Benacer a créé l'association Entreprendre en Val-de-Marne. Elle y donne un coup de pouce qui permettra à ceux qui souhaitent monter leur entreprise de sauter le pas parce qu'elle connaît leur peur et que cela a été son parcours à elle aussi. Eva Escandon préside l'association Femmes Chefs d'Entreprise qui compte quelques 2000 membres. Elle a ce recul qui lui permet de voir où sont les avancées, où sont les points de blocage. Dans l'industrie, il va y avoir de belles opportunités pour les femmes. Les dirigeants de beaucoup d'entreprises de la génération du baby-boom arrivent à l'âge où ils vont céder les rênes de leur société. Et ce pourrait être une belle occasion pour les femmes de reprendre ces sociétés, d'être plus nombreuses aux commandes. Mais oseront-elles ?
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter sur
RFI.fr, bien sûr.
Clémence Denavy, merci madame. Merci beaucoup. Bonne journée. Littérature.